Chapitre 9. Saul est encore rempli de fureur et de menaces lorsque le Seigneur l'arrête sur le chemin de Damas et se révèle à lui dans une lumière du ciel qui brille comme un éclair non seulement autour de lui, mais aussi dans sa conscience. Nous trouvons dans ce récit les traits caractéristiques essentiels de toute vraie conversion. Il y a la lumière qui pénètre la conscience, la révélation du Seigneur Jésus au cœur, la conviction de péché dans le « Pourquoi me persécutes-tu ?» et la fin de toute opposition, de tout sentiment de sa propre importance dans l'humble « Que dois-je faire, Seigneur ?» Quand on a trouvé Jésus, que la conscience est touchée, qu'on se soumet humblement à Jésus comme Seigneur, il y a conversion réelle, même si l'âme a encore beaucoup à apprendre. La manière dont le Seigneur a agi envers Paul était éminemment personnelle. Aussi, ses compagnons de route, bien qu'étonnés, ne comprennent rien à ce qui se passe. Cette révélation remarquable du Seigneur rend Paul littéralement aveugle à l'égard du monde qui l'entoure. Conduit à Damas, il y passe 3 jours qu'il n'oubliera jamais, au cours desquels la signification de la révélation pénètre son âme. Étant aveugle, il n'est distrait par rien et ne se préoccupe même pas de manger ou de boire. Avant de commencer son service, Ézéchiel était resté assis parmi les captifs auprès du peuple Kébar, stupéfait, là au milieu d'eux, 7 jours. Ézéchiel 3, verset 15. Saul n'est resté que 3 jours dans cet état à Damas, mais il a passé par des expériences infiniment plus profondes. Les versets 12 à 17 de 1 Timothée 1 nous en donnent une idée. Il a été saisi par l'énormité de sa culpabilité comme le premier des pécheurs, mais plus encore par l'immensité de la grâce du Seigneur par laquelle il a obtenu miséricorde. Au cours de ces 3 jours, il a passé spirituellement par un processus de mort et de résurrection. C'est alors qu'ont été posés dans son âme les fondements de ce qu'il a exprimé plus tard « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. » Galates 2, verset 20. Au cours de ces 3 jours, Saul voit en vision un homme nommé Ananias venir et lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue, et c'est effectivement ce qui a lieu. Ananias arrive pour accomplir ce qui a été communiqué à Saul. Il se présente à lui comme le messager du Seigneur, de Jésus, et lui annonce que non seulement il recouvrirait la vue, mais qu'il allait être rempli de l'Esprit-Saint. À ce moment, Saul était un croyant, car l'Esprit-Saint n'est donné qu'à ceux qui ont cru. Une fois que l'œuvre essentielle a été opérée dans l'âme de Saul, le Seigneur se sert d'un instrument humain. 2 remarques s'imposent à l'égard de ce serviteur. D'abord, il n'était qu'un disciple, pas spécialement en vue, semble-t-il. Il convenait que le seul homme qui devait apporter une aide à Saul soit caractérisé par une grande humilité. Saul avait joué un rôle très important comme adversaire, et il allait bientôt avoir une place prééminente comme serviteur du Seigneur. Il a été assisté par un disciple humble et modeste, mais qui se tenait suffisamment près du Seigneur pour recevoir ses instructions et s'entretenir avec lui. Il en est souvent ainsi dans les voies de Dieu. En second lieu, Ananias habitait à Damas. Il était par conséquent de ceux contre lesquels Paul avait respiré menaces et meurtres. Ainsi, l'un de ces croyants que Saul n'aurait pas hésité à mettre à mort est envoyé auprès de celui qu'il peut appeler Saul, frère, pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli de l'Esprit-Saint. De cette manière extraordinaire, Saul reçoit le bien en retour du mal qu'il avait fait. Les jours pendant lesquels Saul a été aveugle, tant physiquement que mentalement, ont maintenant pris fin. Il est baptisé au nom de celui qu'il avait jusque-là méprisé et haï. Et il marche avec ceux qu'il voulait détruire, étant devenu l'un d'eux. Il a été appelé comme un vase d'élection. Ainsi, son service commence aussitôt. Jésus lui a été révélé comme le Christ et le Fils de Dieu. Et c'est comme tel qu'il l'annonce, prouvant par les Écritures qu'il est le Christ, à la confusion de ses amis d'autrefois. Ceux-ci se transforment alors rapidement en ennemis acharnés et tiennent conseil ensemble pour le tuer, comme lui-même peu auparavant avait voulu tuer les saints. Il avait eu la pensée d'entrer à Damas entouré d'une certaine pompe comme représentant des autorités à Jérusalem. Il y entre comme un homme humble et aveugle, et il en ressort sans aucune dignité, dévalé dans une corbeille pour échapper à la haine des Juifs. Dès le début, Saul est ainsi amené à passer lui-même par ce qu'il avait fait subir aux autres. De retour à Jérusalem, il est confronté très naturellement à la méfiance des disciples. Ils ne le reçoivent que grâce à l'intervention de Barnabas qui leur raconte ce que le Seigneur a fait pour Saul et comment celui-ci s'est converti. Barnabas est en quelque sorte la lettre de recommandation de Saul. À Jérusalem, Saul rend ouvertement témoignage. Il entre en conflit avec les hellénistes, ceux-là même qui portaient une si grande responsabilité dans la lapidation d'Étienne. Maintenant, ils sont prêts à mettre à mort celui qui alors avait gardé leurs vêtements. Tout ceci fait partie des voies gouvernementales de Dieu. Le fait que le Seigneur avait manifesté envers lui une telle grâce lors de sa conversion n'empêchait pas que, selon ses voies gouvernementales, ils doivent moissonner ce qu'il avait semé. Menacé de mort, Saul doit quitter Tars, sa ville natale. On peut se demander quand se situe le séjour en Arabie dont il parle en Galates 1, verset 17. Il semblerait que ce soit pendant les jours en grand nombre mentionnés au verset 23 de notre chapitre, car Paul dit qu'il est retourné de nouveau à Damas. S'il en est bien ainsi, la fuite de Damas lorsqu'il fut dévalé dans une corbeille par la muraille eut lieu après son retour d'Arabie. Quoi qu'il en soit, c'est son départ pour la lointaine Tars qui inaugure la période marquée par le calme et l'édification pour les assemblées, période au cours de laquelle celles-ci se multiplièrent. Le verset 32 nous ramène à l'activité de Pierre. Il nous montre que si l'Esprit de Dieu opérait avec une si grande puissance ailleurs, il n'avait pas cessé pour autant de travailler par ce serviteur. Il y a d'abord eu à Lydde une œuvre remarquable, la guérison d'un paralytique. Puis, à Jopé, Pierre est l'instrument de la résurrection de Dorcas. Et ainsi, plusieurs dans cette ville crurent au Seigneur. C'est alors que Pierre fait un séjour prolongé chez Simon le corroyeur. Pendant ce même temps, l'Esprit de Dieu avait opéré dans le cœur de Corneille, le centurion romain, et y avait produit la piété et la crainte de Dieu, accompagnés d'aumônes et de prières à Dieu. Le moment était venu d'amener cet homme et ses amis animés des mêmes sentiments dans la lumière de l'Évangile. Or, les clés du royaume des cieux avaient été confiées à Pierre, Matthieu 16, verset 19. Et de même qu'il s'en était servi le jour de la Pentecôte pour recevoir les élus d'entre les Juifs, il s'en sert maintenant en faveur de ceux d'entre les gentils. Notre chapitre relate comment Dieu a appelé et converti l'homme qui allait être l'apôtre des gentils. Le chapitre suivant nous montre comment Pierre va être libéré de ses préjugés et conduit à ouvrir la porte de la foi aux gentils, préparant ainsi le chemin pour le ministère de l'apôtre Paul.